Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on va commencer, Rémi, avec la statue du jour.
Au lendemain du premier anniversaire de la mort de Bernard Tapie, son fils Laurent lance une souscription pour lui faire ériger une statue. L'homme imaginait un hommage plus prononcé à Marseille à l'occasion de ce premier anniversaire pour la mémoire de son père, alors que la ville indique travailler à un lieu proche du Vélodrome qui pourrait être rebaptisé du nom de Bernard Tapie. Laurent, lui, veut accélérer les choses et lance donc cette souscription pour ériger un monument en la mémoire de son père.
Fred Hermel, une statue Bernard Tapie, c'est une bonne idée ?
Si ça venait de quelqu'un d'autre, si la ville ou le club le décidait, pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu étrange que la propre famille demande un hommage. En général, ça vient de l'extérieur. C'est
pas une souscription.
En plus, une souscription. Donc, et si, j'ai entendu les déclarations de Laurent Tapie, qui s'en prend à la ville, qui s'en prend au club de ne rien faire. Il a eu d'ailleurs des mots pas très sympathique pour le regretter Robert Louis Dreyfus, en disant que lui, on avait nommé le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus,
qui avait été le propriétaire.
Oui, voilà, c'est pour ça, oui. C'est un grand bienfaiteur de. Voilà. Et en expliquant d'ailleurs que Robert Louis Dreyfus a vu le droit à un centre d'entraînement à son nom, alors qu'il n'avait rien gagné avec l'OM, j'avais trouvé ça un petit peu déplacé.
Donc
ce genre de propos ont quand même desservi la cause de cette demande de statut.
Mais une statue Bernard Tapie, vous seriez pour ou contre, vous?
Pour ou contre, peu importe. Si ça émane directement du choix et des vœux des Marseillais et des supporters marseillais, et s'ils le veulent, avec grand plaisir. Moi, là où je mets le holà, qu'ils la fassent très bien, ils font ce qu'ils veulent, c'est sur la qualité de la statue. Parce que j'ai en tête la statue de Cristiano Ronaldo au Portugal.
Mon Dieu.
Allez la voir sur Internet, c'est une catastrophe en termes de beauté. J'ai en tête très récemment la statue qui rendait hommage à Johnny Hallyday à Bercy. Elle est.
Enfin, c'est pas les fans de Johnny qui ont payé la statue, tu vois.
Nous sommes d'accord. Mais voilà, si.
C'est ça qui est un peu.
S'ils la veulent, c'est leur droit le plus cher, et s'ils veulent soutenir Bernard Tapie, allez-y, faites-la. Maintenant, faites très attention au choix de l'artiste et au choix de la statue.
Est-ce que la question, c'est vraiment l'esthétisme?
Oui,
est-ce que c'est pas le symbole?
Un objet moche dans une ville, ça reste un objet moche.
Voilà.
Même si c'est en hommage à quelqu'un.
Il y en a.
Enfin, non, mais la question, c'est est-ce qu'il faut oui ou non?
Après, c'est même un choix.
C'est un voyou. C'est un homme qui a été condamné pour ce qu'il a fait. C'est, je ne vois pas en quoi on pourrait l'ériger en un grand modèle du pays. Et très franchement,
rendre hommage
à ce genre
alors.
Il a fait beaucoup pour le club. Quoi.
Oui,
non, mais dans ces cas-là, il va falloir déboulonner beaucoup de statues.
Il a été condamné.
C'est sûr que je trouverais ça incroyable que l'espace public rende hommage. Il y a tellement de personnes à qui rendre hommage, pourquoi lui, quoi?
On veut déboulonner Victor Hugo, on veut déboulonner Jules Ferry, déboulonner Colbert. Bon, moi aussi, je préfère Colbert, Jules Ferry et Victor Hugo, bien sûr.
Ah, Bernard Tapie.
Oui.
Non. La coupe du jour.
Une cinquantaine d'artistes françaises, dont Juliette Binoche, Isabelle Adjani ou Marion Cotillard, entre autres, ont sorti leurs ciseaux pour se couper une mèche de cheveux en solidarité aux femmes iraniennes. Des femmes en première ligne des manifestations après la mort de Mahsa Amini le 16 septembre dernier. Trois jours plus tôt, cette jeune femme de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du code vestimentaire strict pour les femmes en République islamique d'Iran, en laissant échapper une simple mèche de cheveux de son voile.
Voilà, une cinquantaine d'artistes français. Ces images sont assez fortes, on les voit.
Oui, elles se sont filmées.
Sur Internet. C'est une bonne idée, ça, Fatima?
Oui, tout à fait. Alors, on documente souvent l'histoire en disant que les femmes ont lancé une révolution, que ce soit en Russie, que ce soit en France, etc. Et là, il faut vraiment se rendre compte qu'elles lancent une révolution. Une révolution qui est pour les 99% d'Iraniens, opprimés quand même par un pouvoir qui est corrompu, dictatorial et patriarcal. Et que là, le mouvement qu'elles ont entraîné derrière elles, qui va bien au-delà d'ailleurs qu'à la seule critique du patriarcat, mais vraiment de toutes les catégories opprimées iraniennes, est incroyable. Elles ont vraiment entraîné quelque chose qui, je pense, donnera des fruits démocratiques. Mais maintenant, la répression est très très forte, très très dure. On apprend tous les jours des nouvelles victimes tuées par les forces de l'ordre et les forces de répression iraniennes. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour les soutenir est bienvenu.
C'est bien cet engagement ou c'est facile pour vous, Fred Hermel?
J'ai vraiment du mal à me prononcer parce que
c'est pour les cheveux.
Non, mais c'est parce qu'il y a. J'ai du mal à juger du degré de sincérité de ces actrices. Voilà.
C'est-à-dire?
C'est vrai que c'est tellement consensuel que c'est pas très risqué, certaines se coupent plus de cheveux que d'autres, mais il y a un truc qui est très drôle, c'est quand tu regardes
Juliette Binoche qui va fort et d'autres qui
on voit quand même
c'est un demi-cheveu.
Isabelle Huppert par exemple, elle a l'air, sa mèche a l'air très
Isabelle Adjani, c'est un bon match. Alors il y a certaines, je ne sais pas, dirait-on un homme, je ne voulais pas trop, mais comme tu as lancé le sujet, mais toi t'es une femme, t'as le droit de le dire. Oui, il y a un différent, il y a différents niveaux d'engagement et on a l'impression qu'on
Tu peux pas dire ça. En tout cas, la celle qui se coupe énormément les cheveux, c'est pas non plus un énorme engagement, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que voilà,
Après, il faut voir le discours qu'elles ont aussi sur le voile.
Non, mais d'un autre côté,
il y en a certaines qui sont très bien pour les femmes iraniennes, mais qui en même temps vont défendre le.
Oui, mais on a
plus. Même en Iran, les femmes et les féministes ne demandent pas à ce que on impose aux femmes voilées qu'on leur enlève leur voile. Donc elles, quand elles défendent les femmes en France, c'est par rapport à celles qui veulent se voiler.
Et en Iran, il n'y en a aucune
qui dise que nos sœurs, nos mamans, nos mamies, on leur enlève le voile de force. Ce n'est absolument
pas ça. Elles disent qu'elles voudraient ne pas devoir le porter.
Elles voudraient avoir le choix.
Le choix, c'est le discours des islamistes.
Elles veulent avoir le choix. Elles meurent là-bas.
On a le droit de porter un voile là où c'est pas interdit.
Voilà.
Le choix, c'est la liberté.
Voilà, c'est tout. Elle veut avoir la liberté, à l'école par exemple, on ne porte pas le choix.
Moi, je défends les femmes iraniennes.
Parce que tu as dit, il y a certaines actrices, elles défendent les femmes voilées en France. Et ben, c'est tout à fait cohérent. Je défends les femmes iraniennes et je soutiens la révolution et je suis absolument contre le voile imposé. Comme je soutiens les femmes ici à qui on demande de retirer leur voile quand elles n'ont pas à le retirer.
Il faut raison garder. On ne peut pas comparer la situation en France et la situation en Iran. L'histoire n'est pas la même.
Non, mais parce que par exemple, Marion Cotillard. Qui dénonce le capitalisme, qui dit que le capitalisme tue dans une émission de télé et qui est l'égérie de Chanel. Donc là aussi,
ça n'a rien à voir.
Il y a ce côté un peu mise en scène des actrices.
Qui te dit qu'elles sont pas sincères?
J'ai le droit d'avoir des doutes, notamment quand je vois Marion Cotillard là et que je vois ce qu'elle dit sur le capitalisme et qu'elle est en même temps.
Il y en a qui ont certaines tartufferies par rapport à la position.
Pas toutes. C'est juste que Isabelle Adjani, non, elle n'est pas une tartuffe.
En tout cas, ce que tu as dit au début, c'était. Oui, elles défendent les Iraniens là-bas, alors qu'elles défendent les femmes voilées en France, et ce n'est pas antinomique.
Je dis que certaines ont des discours un peu étranges.
Enfin, tout ça pour dire qu'il ne faut pas aller vers le procès en légitimité ou en sincérité. Ce qu'elles font, c'est un minimum, et c'est très bien qu'elles le fassent. On ne va pas critiquer qu'elles le fassent et leur faire un procès ou leur imposer un procès en sincérité. Que Marion Cotillard ou d'autres aient dit des choses derrière, et que ça soit, puisse porter à polémique, et qu'il y a un paradoxe entre effectivement prendre l'avion et derrière dire pour l'environnement. Oui, il y a une question de sincérité, bien évidemment. Moi, quand je parle de la Coupe du Monde au Qatar, qui n'a rien à voir avec le sujet, et qu'on fait un procès en crédibilité ou en sincérité, en disant que je parle de foot, donc bien évidemment du Qatar et du PSG, on l'aura ce procès, quoi qu'il arrive. Comme les actrices qui font des films tournés en Chine, tournés dans le Moyen-Orient, parfois tournés en Iran, parfois tournés ailleurs, et qui consomment et qui ont un bilan carbone très élevé, qui vont polluer, peu importe. Il y a un devoir de représentation symbolique. Ce sont des actrices. Elles font pas de politique. Il y a pas de procès en sincérité. Elles en parlent.
C'est un acte politique, quand même.
Mais ce sont des actrices, soit un engagement personnel, citoyen.
C'est un acte politique et symbolique.
Oui, mais surtout symbolique. Elles n'auront aucun rôle dans le changement ou pas qu'il va avoir en Iran. Simplement, elles en parlent. Elles le font, nous, on en parle aujourd'hui et on peut poser sur la table le cas iranien. C'est tout. Procès en sincérité, moi, je ne le fais pas parce que ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, c'est pareil pour la statue de Bernard Tapie, Victor Hugo, compagnie. On déboulonne tout le monde. Tout le monde a un truc à avoir, un truc à se reprocher et on n'arrête jamais. Donc là, en l'occurrence, c'est très bien. On applaudit et voilà, point final.
Et ben, point final. Le démantèlement du jour.
Le campement de Forceval dans le nord-est de Paris où se rassemblent une centaine de consommateurs de crack depuis un an maintenant, a commencé à être démantelé par la police ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, indique que 1000 policiers seront déployés afin que ce campement ne se reconstitue pas ailleurs.
Alors c'est très bien, mais que vont faire ces consommateurs de crack? Ils vont aller où?
Pour ceux qui ne connaissent pas la situation, ils sont déplacés d'endroit en endroit dans le nord-est parisien. Donc, effectivement.
Et donc, il faudra démanteler un autre.
À chaque fois, ça fait des années. Alors, malheureusement, c'est vraiment un sujet extrêmement complexe, extrêmement grave et gravissime, parce qu'on parle à la fois de personnes totalement dépendantes par le crack. Et le crack, il faut préciser que c'est une drogue. On devient instantanément dépendant dès la première prise. Il y a les mafias, notamment les mafias sénégalaises, qui sont très présentes et qui font tourner un trafic très important et très puissant là-dessus. Il y a un effort de répression qui doit être fait contre ces mafias et contre ces trafics. fatigant. Mais il y a aussi, et là-dessus, je peux mettre à la place des habitants qui vont mal l'entendre et mal le comprendre, un devoir de prévention et aussi de soutien vis-à-vis des contaminés, vis-à-vis des drogués, ce qu'on appelle les craqueux, qui doivent être soutenus, aidés et pris en charge par les collectivités, par les municipalités, par les acteurs publics. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre parce que...
Ils veulent pas l'entendre.
Et je le comprends parfaitement, malheureusement. Mais dans ce cas du crack, il faut de la répression, c'est une évidence, contre les mafieux et les trafiquants, et du soutien, de la prévention, de la prise en charge.
Fatima Benoma, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Oui, bon, déjà parce que je travaille à Porte de la Villette, effectivement, c'est un spectacle apocalyptique et désolant de voir, parfois je suis dans le tram et de les voir traverser ce tram comme des morts vivants, et c'est vraiment déchirant. Il y a aussi beaucoup de jeunes migrants, des migrants primo-arrivants qui arrivent, qui sont déboussolés, qui sont en situation de errance et qui, la seule manière de se rassénérer, c'est effectivement de se consoler, on va dire, en prenant de la drogue. Et oui, il y a un devoir de prise en charge des politiques publiques. C'est pas normal, même depuis des années. C'était d'abord du côté de Jaurès, puis avant du côté de Gare du Nord. On ne trouvait pas de solution sociale et on les a laissés en déshérence. Et c'est de pire en pire. Il faut, c'est une question sanitaire, une question humaniste. Et ça ne coûte vraiment pas grand chose d'essayer de prendre en charge leur dossier.
Et c'est vrai que c'est hallucinant, Fred, de les laisser dans la nature, quoi.
Ah oui, non, mais c'est dangereux pour les gens. Bah, y a les enfants, ça règne partout. Enfin, c'est l'horreur. Enfin, les usagers, on les comprend, quoi. Et en fait, pourquoi ils changent d'endroit?
Les riverains.
Parce que les riverains, les riverains, à un moment, ils sont là à côté. Ils râlent. Et puis, au bout d'un an, on va les changer pour laisser tranquille les riverains et emmerder d'autres.
Bah, c'est vrai. Ouais. On va terminer avec la coupure du jour.
Le gouvernement autorise désormais les pouvoirs publics, Enedis, le gestionnaire de la quasi-totalité du réseau français d'électricité, à interrompre l'alimentation électrique des ballons d'eau chaude.
Comment?
Pendant les pics de consommation de la mi-journée. Comment? Entre midi et 14h, grâce.
Ah, ça va.
Grâce à qui? Grâce au compteur connecté Linky. Ça sera comme ça du 15 octobre au 15 avril prochain. Entre midi et 14h, l'alimentation du ballon d'eau chaude sera coupée. Pour ceux qui, encore une fois, ont un contrat heure creuse, heure pleine. Ce ne devrait pas avoir de conséquences pour l'utilisation du ballon d'eau chaude, puisque
Si je veux me doucher entre 12 et 14.
Mais non, c'est ton ballon.
Il
est déjà chauffé, l'eau est déjà chaude en fait.
Et si je veux me doucher à 17h?
C'est pareil.
Voilà, exactement. Alors effectivement, ça pose un problème si c'est entre 12h et 15h par exemple qu'on arrête de chauffer l'eau, elle pourra refroidir à 14h, et si tu prends à 14h59 ta douche, elle sera froide.
Je crois qu'on a déjà à 15h15.
Mais là-dessus, c'est sur la question des heures creuses, heures pleines. Les heures creuses, le risque avec ces heures creuses, heures pleines, c'est qu'il y a un pic d'alimentation au moment justement où on est en heure creuse, donc on paye moins cher. Et le risque, c'est d'avoir un excès de consommation au moment de la hausse.
Excusez-moi, mais cet hiver, donc on n'aura plus d'eau chaude, on n'aura plus d'électricité,
des informations.
Mais moi, ça me fait très peur, ça. Ça, c'est la Chine.
Vous savez,
parce que attends, à distance, on peut intervenir dans ta maison.
Oui.
Contre ta volonté. Alors, quand on a installé les Linky, là, il y a quand même les complotistes de toujours qui ont dit attention, nana. On leur donne raison.
Mais
il leur faut pas grand chose déjà pour faire du bruit. Mais vous imaginez qu'on puisse de l'extérieur intervenir sur ta vie quotidienne.
Oui.
Et à partir d'un moment, qu'est-ce qu'on va dire?
Mais on
commence comme ça. On peut dire bon, alors toi, tu as le droit à tant de kilowattheures par jour. Et à un moment, on peut te couper parce que tu as utilisé trop d'électricité. Eh bien oui, c'est la réalité. Ce qu'on voit là, c'est dans une dérive antidémocratique, ce qui pourrait se produire au nom des économies d'énergie.
Fatima, vous avez 25 secondes.
Toujours est-il que ce qu'on fait chez nous n'est pas protégé par la loi. Mmh. D'ailleurs, on peut intervenir chez toi si tu fais quelque chose d'illégal chez toi, par la force de la loi.
Me doucher à l'eau chaude, c'est pas encore illégal en France.
Ça va le devenir.
Je dis juste que il faut pas laisser penser aux gens que chez nous, on a le droit de tout faire. S'il y a des moyens de régulation... qui n'ont pas d'impact, on va dire, réellement sur tes droits, parce qu'au final,
ça
ne
touchera une autre heure, c'est tout.
Ouais.
Ça,
c'est pas la mort.
On verra. Tu pourras pas te doucher quand tu veux.
Voilà, bon. Tu verras quand je vais venir ici si je suis pas douché.
Bon, écoutez, on verra. En tout